métier d'éboueur est parfois brandi maladroitement comme une menace pour les enfants qui travaillent mal à l'école. C'est vrai que c'est facile de se moquer de ceux qui sont au quotidien au contact de nos ordures. Et pourtant, quand ils se mettent en grève, notre ville devient un enfer. Et on n'attend qu'une chose, le retour des camions verts dans nos rues. Depuis quelques années, Ludovic parle de son travail avec passion sur TikTok. Il a fait changer d'avis beaucoup d'entre nous sur ce métier indispensable. Et aujourd'hui, on est avec lui et on va se plonger en détail dans la vie d'un éboueur. Salut Ludovic.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors exceptionnellement pour cet épisode et pour le suivant, Benoît, notre expert des métiers et de la formation, ne sera pas des nôtres. Donc on l'embrasse et il m'a confié des questions et je tâcherai de le remplacer au mieux. Alors Ludovic, merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. J'aime bien demander en première question aux invités de m'expliquer leur métier comme s'ils étaient un premier date.
Waouh. Ok, alors... Mon métier, c'est quoi? C'est... Alors déjà, il est très utile, hein, faut pas... C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on ramasse les déchets. J'imagine même pas si, avec nos mentalités actuelles, s'il n'y a pas des boueurs, on serait la décharge de l'univers. Un éboueur, c'est quoi? C'est un ripper, c'est un lancier, c'est un balayeur, c'est un chauffeur. Alors un ripper, c'est quoi? C'est celui qui est derrière le camion et qui ramasse nos bacs, qui collecte nos poubelles. Parfois, on ouvre le capot des poubelles, on voit l'intimité des gens. Tu voulais un date, le voici.
C'est parfait. J'adore. Je suis tout oui.
Et un lancier, c'est quoi? C'est celui qui est sur le trottoir. Les Avengers du trottoir.
Un lancier?
Un lancier, d'accord. C'est celui qui est sur le trottoir. Et il est avec un gros tuyau et... Il lave les rues avec de l'eau, parce qu'il faut savoir qu'on vit dans la poussière, on la voit pas, mais elle se cumule sur le trottoir, et on marche, si on le fait pas, on marchera sur un tapis de poussière. On peut faire le test chez nous, on laisse 10 cm, 10 cm, 10 cm, un carré 10 cm sur notre meuble, on nettoie pas pendant un mois, vous allez voir. Ouais, c'est exactement pareil sur les trottoirs. Ensuite, il y a le chauffeur, bien évidemment. Sans le chauffeur, eh ben, il n'y a pas de ripper, etc. Il n'y a pas de lancier non plus. Et il y a aussi le balayeur. Moi, je suis plus balayeur. J'ai avec mon chariot et je parcours les rues de Paris-Centre. C'est extrêmement bourré d'incivilité. Et il y a des gens bourrés aussi. parfois, ils viennent nous voir et on partage des bons moments. On est les GPS ambulants. Aussi, parce qu'on renseigne souvent sur les noms des rues, sur des commerces que les gens cherchent. Voilà ce que c'est qu'un éboueur à Paris.
Donc ça, c'est la partie qu'on voit. Donc là, on a eu en plus un peu de jargon, c'est cool. Il y a les équipes donc, autour du camion, qu'on connaît évidemment, le camion qui passe dans les rues et qui récupère les ordures ménagères. Mais il y a aussi...
Pas que les ordures ménagères. Il y a aussi les emballages, toutes les poubelles jaunes. Alors, ouais. Je voulais faire une petite précision. Souvent, on pense... que les éboueurs, quand ils prennent un bac vert et un bac jaune à la fois, c'est pas, ils trient pas, c'est faux. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, ça arrive que les ordures ménagères, donc les chapeaux verts, ils prennent les chapeaux jaunes. Mais pourquoi? C'est parce que le tri dans la poubelle jaune n'a pas été respecté. Il n'y a pas que des emballages dedans. Donc la poubelle jaune, il faut bien la collecter. Elle ne peut pas rester sur le trottoir. Donc, c'est les ordures ménagères qui récoltent, qui collectent les poubelles jaunes quand elles sont souillées.
Comment vous savez ça? Alors ça, c'était une autre de mes questions sur le côté tri écologie, mais c'est très intéressant. Allons-y.
Comment on le sait? Mais on ouvre le capot et on
et vous regardez, ouais, d'accord. Et vous voyez que souvent, c'est pas super bien respecté.
C'est affolant. Alors, nous, on met un scotch quand les poubelles jaunes ne peuvent pas se collecter. On met un scotch en disant, voilà, c'est non conforme en fait.
Okay.
Et donc, quand il y a ce scotch-là, ça veut dire que c'est les ordures ménagères qui vont les récupérer. Donc, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur ça et ils disent, ouais, ça sert à rien de faire le tri, etc. C'est faux, bien évidemment, qu'il faut faire le tri, c'est hyper important.
Donc, vous avez aussi un rôle de contrôle?
Oui.
Donc ça, c'est intéressant parce que j'avais envie de rentrer un petit peu dans le détail de ce métier parce que nous, on n'en voit qu'une partie. On voit des gens qui nettoient. Mais j'imagine que déjà, dans la journée d'un éboueur, il y a plusieurs étapes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, la journée type qui commence le matin? À quelle heure ça commence?
Ok. Alors, à Paris, il faut savoir qu'il y a 24 heures sur 24 des éboueurs. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais il y en a 24 heures sur 24.
En tout cas, on en voit à toute heure.
Voilà. Ouais. Alors, exactement. À Paris, La première équipe commence à 6h du matin. Ensuite, elle finit sur les coups de 13h. La deuxième équipe, dont moi je fais partie, je commence à 12h24 et 20h12. Là, je sais ce que tu vas me dire, c'est très précis. Oui, c'est normal, c'est pour permettre la relève dans les rues. Ensuite, il y a l'équipe qui arrive sur les coups de 16h jusqu'à 23h. Et ensuite, il y a l'équipe de nuit. Et l'équipe de nuit, bien évidemment, il n'y a pas le même effectif qu'à la journée. Mais eux, ils s'appellent la fonctionnelle. On va dire que c'est les élites de ce métier, les élites des éboueurs. Ils sont là, par exemple. Un exemple qui va te parler tout de suite.
Donc la fonctionnelle, ouais. C'est la nuit et leurs horaires, c'est 18h, 6h23.
Voilà, exactement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et en fait, un exemple tout simple, c'est eux qui ont nettoyé après les attentats.
Donc là, on est sur du nettoyage potentiellement...
Exceptionnel, on va dire ça comme ça. Quand il y a un camion, par exemple, qui s'est renversé, où il y a des poules dedans, et elles sont parties dans tous les sens, c'est eux qui vont aller chercher les poules, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils désherbent aussi énormément les périphes. Quand le périph est fermé, c'est parce que vous avez la fonctionnelle qui travaille et qui ramasse aussi tout ce que les gens, ils ont jeté à travers leurs fenêtres. Les gens s'arrêtent pour vider leur coffre. Ils mettent ça sur le bas-côté. C'est affolant. Vraiment. Donc, voilà, ils font ça. Ils font le désaffichage aussi. Ils font le désaffichage.
Je ne sais pas ce que c'est.
On désaffiche.
Le désaffichage.
J'ai parlé un peu trop vite, pardon. Et oui, c'est les affiches qui n'ont rien à faire là.
Les gens qui collent des affiches sauvagement sur des vitrines de restaurants fermés, de boutiques fermées. D'accord.
Il faut savoir que c'est hyper dangereux, ces affiches-là, parce que les afficheurs, ils affichent, et ça devient une épaisseur. C'est très épais de plus en plus. Et quand il pleut, l'humidité, ben, ça les décolle. Et ça peut tomber sur un passant. Ça peut aller très vite. Donc voilà, on désaffiche. Ensuite, on enlève aussi ils enlèvent les graffitis. Énormément les graffitis. Donc il y a du boulot.
Et tout ça, ce sont des fonctionnaires de la mairie de Paris ?
Oui, bien sûr, c'est la fonctionnelle, c'est les élites des éboueurs.
Et voilà. Tu parlais des attentats, donc vous passez aussi dans ces cas-là, après des événements tragiques, après la police, j'imagine.
Exactement.
Quand il a fallu nettoyer le Bataclan, par
exemple. Exactement, par exemple.
Et donc ça, c'est, j'imagine, des gens aussi qui ont une formation particulière, parce que c'est traumatisant.
Pas spécialement. Pour intégrer la fonctionnelle chez nous, il faut avoir au minimum 3 ans d'expérience en tant qu'éboueur. Et après, si votre dossier... est acceptable, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas pris, mais après il y a des conditions à respecter, parce que c'est à Porte des Lilas, donc sur Paris, il faut habiter à 30 minutes de Porte des Lilas, il y a des abstreintes aussi, on peut être appelé à tout moment, donc après, voilà, il faut bien faire son choix, parce que c'est vrai que la vie de famille est un peu compliquée quand on intègre un service comme celui-ci. Moi j'aimerais bien intégrer, vraiment, parce que c'est vraiment, par exemple derrière la Gay Pride, il y a la Gay Pride qui passe ici, ben c'est eux. C'est la fonctionnelle. Tu vois, les gros camions.
Qui nettoient les paillettes.
Exactement, exactement. La technoparade, les gilets jaunes, ils sont passés aussi derrière, etc. Toutes les manifestations. Voilà.
Donc, en fait, j'imagine que la fonctionnelle, ce qui est intéressant, c'est que les journées ne se ressemblent pas du tout.
Non.
C'est vraiment ça.
Elles sont toutes différentes, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Par exemple, aussi, quand il y a eu des camps d'immigrants. C'est eux qui sont passés aussi, quand la police est passée avant, bien évidemment, pour les déloger. Ça, c'est horrible. Parce que tu vois les familles partir avec leurs enfants. Ça, je pense pas que je serais capable de le faire. Parce que ça m'embêterait d'enlever le peu qu'ils ont, en fait.
Vous avez le droit de refuser ce genre de truc ? Est-ce qu'il y a une sorte
malheureusement,
de...
Malheureusement, non. On ne peut pas refuser. On a un chef, on a une hiérarchie. Si on refuse,
C'est une faute professionnelle. C'est une faute, exactement. D'accord. Ça m'amène, du coup, vers... assez naturellement vers la question de l'organisation un peu hiérarchique et de carrière de ce... Quel est le nom ? La propreté de Paris, quand on parle...
La DPE, on parle de la DPE.
De la DPE.
C'est Département de la Propreté et de l'Eau.
Département de Propreté et de l'Eau, OK.
Voilà.
Et donc j'imagine, est-ce que tu peux me raconter un peu comment on y arrive ? Peut-être en prenant ton exemple, comment est-ce que tu es arrivé dans ces métiers-là ? Et comment est-ce qu'on évolue du tout début jusqu'à la retraite ? Parce que vous faites quand même un métier physique. Moi, je te croise souvent à Châtelet, tu es debout, tu portes une charrette avec un...
Je pousse.
Tu pousses, voilà, tu as plein de choses.
Un roule-sac.
Un roule-sac. J'adore parce qu'on est bien jargonneux comme j'aime. Voilà, alors ça, c'est mon grand plaisir. Donc, c'est un métier physique. Ce sont des métiers physiques. Et j'imagine, et aussi les rippers qui mettent donc les poubelles sur le camion, les gens qui les conduisent.
Les femmes, mais il y a aussi les femmes chez nous, rippers. Moi, je leur tire mon chapeau parce que tirer des bacs de 600 litres, souvent les commerçants, ils mettent des glaçons dedans. Donc, les glaçons, ça fond, ça devient de l'eau. Donc, du coup, c'est juste énorme. Franchement, chapeau. Moi, je leur tire mon chapeau J'invite toutes les femmes qui veulent faire ce métier, venez avec nous.
Est-ce qu'on peut d'abord faire un petit point sur la hiérarchie et l'organisation de tout ça? Comment tu rentres et comment tu finis? Comment t'évolues en termes de carrière dans le domaine?
Alors moi, déjà, je suis passionné par ce métier. C'est venu quand j'étais tout petit, j'étais derrière mon cyprès, je voyais ce monstre arriver, avaler nos poubelles. Je dis « Waouh, c'est des génies, et moi je veux être un génie ». Et la vie a voulu que je fasse autre chose, etc. etc. Et après, j'ai fait la bonne rencontre. Je travaille à 4 heures de chez moi et on me dit, mais du tout, c'est que la ville de Paris recrute. Je dis, ah bon? Et je dis, donc quoi? Il me dit, éboueur.
On est quand là? Il y a combien d'années?
Ouh là là, c'était en 2016.
On est en 2016.
C'était en 2016. Et je dis, ah bon, éboueur. Ah bon? Mais c'est ce que je veux faire depuis toujours.
Et, qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là comme métier? Tu veux en parler ou pas?
Faisant fonction d'être soignant.
D'accord.
Voilà, donc, t'étais faisant fonction. Donc, j'étais à l'HEGP. L'hôpital européen Georges Pompidou. J'étais dans le pôle cancéro, j'étais en radiothérapie. C'était juste incroyablement...
Difficile ?
Humain.
Humain ?
Difficile, mais humain. Surtout, je pense que le côté humain est beaucoup plus important que le mot difficile.
Ok.
C'est difficile, mais c'est pas grave, ça. C'est l'humain qui compte.
Et donc,
c'est pour ça que j'ai vu la chose.
Opportunité de faire un virage de carrière un peu.
Exactement, j'ai fait deux concours. Le premier concours pour être aide-soignant, j'ai eu 13, il fallait avoir 17. Le deuxième, j'ai eu 15, il fallait avoir 17. Bref, j'ai eu mon bas prix. Donc, après, je suis parti dans un FAM, il fallait être médicalisé. Pareil, toujours fonction d'aide-soignant. Et après, c'est là qu'on m'a proposé le métier des boueurs, 4 heures de route, etc. Et là, j'ai dit, waouh, on y va tout de suite. Et donc, il m'a dit, tu envoies ton CV à l'hôtel de ville, donc 2 rue Lobo. Et avec ta lettre de motivation, ils vont te répondre. Et ils m'ont répondu en proposant un concours. J'ai fait « Ok, waouh, un concours, ah, je ne serais pas capable. » J'y suis quand même allé.
Donc, pour devenir éboueur, il y a un concours de la ville de Paris. Est-ce que tu peux nous dire les prérequis pour ce concours, s'il y en a?
Non, il faut juste être français-européen.
D'accord.
Et avoir sa carte d'identité à jour.
D'accord.
C'est tout. Et voilà, pas besoin d'avoir des diplômes. Le diplôme de la vie, c'est bien.
Très bien. Donc, pas de prérequis en dehors d'un juste y être majeur.
Voilà, exactement.
Et d'être français.
Alors, moi, je me rappelle, c'est en 3 mois le concours. Hein. Le premier mois, c'est l'écrit. Et la première, je suis allé au concours pour l'écrit, il y avait plus de 7000 personnes. J'étais dans le groupe 6, 1400e personne.
Yes.
C'était impressionnant.
Ok, donc. Ouais,
c'est un concours de la fonction publique, donc c'est très strict. Hein. Et donc. L'écrit, qu'est-ce que j'ai comme question? J'ai eu, par exemple, une grand-mère qui se fait agresser sur le trottoir, donc il faut mettre en situation. Une grand-mère qui se fait agresser sur le trottoir.
Dans quel bac on la jette?
Qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai répondu qu'il fallait appeler les secours, etc. Et bien évidemment, on va aller l'aider. Mais il y en a qui ont dû répondre, qui vont l'aider avant, ils appellent les secours après, c'est pas bon. Parce que la ville de Paris ne veut pas recruter des bagarreurs ou quoi qu'est-ce, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Donc, 7000 personnes au départ, l'écrit est passé, plus que 700 personnes sélectionnées.
Donc là, il y a 90% des... Déjà, il faut savoir écrire aussi.
Exactement, tout à fait. Oui. Et puis savoir lire, savoir écrire.
Savoir lire, écrire. Ouais.
Parce qu'on est tout seul dans la rue, il faut savoir s'exprimer aussi. Il y a tout ça, hein. Et donc, on arrive au deuxième mois, c'est l'oral, et là, c'est des chasseurs de tête. Donc, on passe devant un jury, je me rappellerai toute ma vie. Le jury me dit, Monsieur Franceschi, on a rarement vu une personne comme vous, votre CV est incroyable. Alors qu'il est juste bourré d'expérience, de vie. Et donc, je partais aux États-Unis, etc., etc., enfin, plein de choses. Et donc, déjà, ça m'a mis en confiance. Et ensuite, ils nous remettent en situation pour savoir comment on va réagir.
C'est qui le jury ? C'est des
éboueurs ? Ah, c'est des professionnels. Non, il y a pas. J'aimerais bien moi y participer au jury pour sélectionner les nouveaux arrivants. Vraiment. Et c'est hyper intéressant comme expérience. Alors c'est des gens. Je crois qu'il y avait un agent de maîtrise et l'autre c'était un TSO, donc c'est un technicien de surface opérationnelle, si je me trompe pas.
C'est voilà. Quoi
TSO, c'est un chef d'équipe.
D'accord.
Voilà. Donc, là, on n'est plus que 700. L'oral se passe. Ils en sélectionnent plus que 300. Donc, on arrive maintenant le troisième mois à la pratique. Et la pratique, c'est quoi? C'est plein de petits ateliers. Ils nous testent et ils nous chronomètrent par rapport à notre condition physique. Voilà, on pousse un bac, on tire un bac, on porte des sacs de sable, etc. etc. Et là, au final, on s'est retrouvé à 267. Donc, tu vois, on était 7000 au départ, 267 à l'arrivée. Moi, j'étais heureux, je fais partie de ces 267-là.
Ouais, ça a dû te mettre aussi un petit boost d'ego, toi, qui avais un peu des mauvaises expériences de concours.
Ouais, complètement.
Ça a dû être chouette.
Ça a été... Moi, j'ai kiffé, hein. Vraiment. J'ai tout donné. Et en fait, je me suis valorisé. C'est l'une des premières fois où j'ai réussi à me valoriser. Bah, pareil, à l'oral, on m'avait dit, mais pourquoi en prendrez-vous et pas un autre? Qu'est-ce que j'ai répondu? Parce que je suis le meilleur. Moi, je la voulais, ma carrière. Je voulais être éboueur. Et le reste, je m'en foutais, même si c'est égoïste ce que je dis. Mais on est là pour soi-même, on n'est pas là pour...
Bah, bien sûr.
On n'est pas là pour les autres. Même si je ferais tout pour les autres. Voilà, donc du coup... J'ai réussi le concours, et à partir de là, on nous propose 15 jours de formation. Donc là, on va à l'école de Eugène Poubelle. Tu connais l'histoire d'Eugène Poubelle ?
L'inventeur de la poubelle.
Exactement. Oui. 1881, il était préfet de Paris, c'était déjà dégueulasse. Donc, ils ont inventé le récipient qui est devenu la poubelle. Et déjà, à l'époque, on triait les chiffons et les bouteilles en verre.
D'accord.
Déjà.
Et donc, il y a une école Eugène Poubelle à Paris,
exactement.
Qui est l'école de formation des éboueurs.
Exactement.
Ça, j'ignorais, trop cool.
Tout à fait. Et on fait 15 jours, et on fait toutes nos formations là-bas, pour la plupart. Il y a formation sécurité, agression, il y a plein de formations. C'est ça qui est intéressant à la ville de Paris, c'est qu'il y a plein de formations à faire. Et donc, pendant 15 jours, donc première semaine théorie, et on nous donne notre paquetage, comme à l'armée. Donc, nos vêtements, les chaussures, les bottes, le kawé, tout ça, pour travailler en extérieur. Et ensuite, la deuxième semaine, c'est la pratique. Donc là, on est mis en situation derrière au cul du camion, comme on appelle ça, donc les rippers. On fait un grand marché. On va laver les rues donc avec de l'eau. Et on est avec notre balai, notre chariot. Et voilà. Et là, on est pris, après, on est dispatché dans les ateliers à Paris. Et les ateliers, il y en a plus de 150 sur Paris. Des ateliers, on est à peu près 20 à 25 par atelier dans Paris.
Donc tu es polyvalent, ou est-ce que tu choisis un... Demain, tu peux être ripper autant que lanceur?
Exactement, lancier.
Lancier?
Lanceur, c'est lanceur des javelots.
Oui, mais tu peux aussi l'être en fait. On va parler de ta carrière olympique juste après, mais...
Oui, je pourrais... Oui, j'ai une info d'ailleurs.
Que lancier... Ah bah super. Eh, bah vas-y.
Là maintenant, là tout de suite.
Non, après. ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des salaires?
Oui.
En début de
moi,
carrière.
Moi, je suis très transparent. Il n'y a aucun problème. Moi, je parle en net. Je ne parlerai jamais en brut. Parce que ça ne sert à rien de parler en brut. C'est parce que j'ai dans ma poche. Et donc, quand on arrive, on a un salaire budgétaire de 1 500 € et des poussières.
Net.
Net, oui.
D'accord.
Salaire budgétaire, c'est ce que tu as minimum. Après, il faut rajouter les primes, etc., etc. Là, actuellement, moi, je suis échelon 6, donc c'est ma septième année. Je suis à 1 800 € 43.
Donc, tu as augmenté chaque année?
Alors, il y a eu un changement d'échelon, là, récemment. Le gouvernement, ils ont changé tout ça, donc ils ont réajusté un peu tout ça. Donc, maintenant, je crois qu'on prend un échelon tous les ans.
Ok.
Voilà.
Et jusqu'à la fin de ta carrière?
Il faut savoir qu'il y a plusieurs échelles. Là, je suis éboueur principal, mais après, je serai éboueur principal supérieur. Tu vois, il y a tout un tas d'échelles, et là, je crois que le maximum, c'est 12. Ensuite, ça redescend, mais avec le même salaire. Et hop, on va...
Oui, d'accord, oui. C'est tout un système de cases. Et comment est-ce qu'on rentre dans la... Attends, il faut que je me rappelle le nom.
À la fonctionnelle.
Fonctionnelle,
bah, en fait, il faut être sérieux. Pas de retard. Très peu d'arrêt de maladie, bien évidemment, même si, bon, un arrêt de maladie, normalement, ça ne devrait pas bloquer pour quoi que ce soit, parce que si on s'arrête, c'est parce qu'on n'est pas bien, on a un truc bidule. Mais voilà, donc il faut avoir un dossier très solide.
Et on te le propose, ou c'est toi qui fais une demande ?
Non, il y a des postes qui se libèrent, mais du coup, on a des fiches de postes qui sont affichées dans notre atelier, et voilà, on postule, on fait une demande, après ils acceptent ou pas, et on a un entretien avec les chefs là-bas, et on est pris ou pas.
Et alors, on a un petit peu dérivé, mais on discutait de ta journée type. Donc, oui. T'arrives le matin.
Alors, moi, j'arrive à midi.
Tu te lèves de chez toi.
Ah, c'est ça.
Est-ce que t'habites loin?
Ouais, alors moi, j'habite à Étampes.
D'accord.
Donc, Étampes, c'est à 3 heures de route aller-retour. Donc, moi,
3 heures de route aller, 3 heures de route retour?
Non.
1h30.
Oui, exactement. 3 heures aller-retour. Donc, je me lève à 8 heures. Après, bah, je pars sur les coups de 10 heures. Je prends mon train à 10 heures. En plus, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, pour le coup, je fais mes lives aussi au travail, juste avant de commencer le boulot. Donc, je sensibilise là le maximum de monde à jeter à la poubelle. Et ensuite, on attaque le boulot à 12h24. Mais avant ça, notre chef, il nous donne notre secteur. Donc, ça peut être différent tous les jours. Ça peut être le Forum des Halles. Ça peut être l'Hôtel de Ville.
Donc, vous avez un local,
un atelier.
Où vous venez, où vous avez vos vêtements de travail. Et...
Exactement, le vestiaire. Nous, on a un caveau. Alors, un caveau, c'est quoi? Chez nous, c'est... Ben, en fait, on est en dessous de la route. C'est pour ça qu'on tient un caveau. Simplement. Et on a donc notre garage personnalisé pour notre petit roule-sac.
Trop bien. Et là, le chef vous dit bah, toi tu vas là.
Exactement.
Et vous répartis en fonction, j'imagine, des besoins, des absences, des.
Tout à fait.
Tous les matins.
Exactement.
Donc tu sais jamais ce que tu vas vraiment faire le matin.
Je peux le savoir la veille.
D'accord.
Moi j'aime bien le savoir la veille, comme ça je me conditionne aussi. J'aime bien être conditionné. Quand j'arrive, je sais que je vais aller faire ça là-bas. Donc du coup, voilà. Puis par rapport aussi à mes lives, etc., je peux dire aux abonnés que je travaille là-bas, comme ça il y en a qui viennent me voir, etc.
Trop bien. On reparlera de cette partie-là à la fin, bien sûr. C'est hyper intéressant. Et donc, tu peux faire n'importe lequel de ces métiers, n'importe lequel de ces postes pour la journée, jusqu'à la fin de la journée. Et ensuite, ça recommence et tu travailles 5 jours par semaine
5 à 6 jours par semaine. Là, par exemple, j'étais en 4 jours. Là, je suis en vendredi, samedi, dimanche de repos. Et ensuite, je vais attaquer une semaine de 6 jours. Il y a un roulement. J'ai oublié de dire un poste. Il y a aussi, je ne sais pas si tu vois, les petits camions... Orange, vert et orange. Et en fait, ça, c'est l'urgence propreté. Quand il y a une urgence, on peut appeler soit le 3975 sur Paris et on signale telle et telle chose. Et après, c'est nous, avec un listing, on intervient.
Ça va être quoi, ça, par exemple?
Les gros caca.
Ouais. Ou des encombrants abandonnés.
Des encombrants, ça peut...
Un truc qui fout vraiment un truc dégueu, quoi.
Ouais.
Et donc, du vomi. Comment ça s'appelle?
Urgence propreté.
Et 3970?
3975.
3975.
Après, il y a l'application Dans ma rue aussi.
Ouais.
Qui est à Paris, donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Alors, il y en a pas mal qui s'en servent pour rien. Donc, ça, bon, c'est dommage, je trouve ça. Ils vont déclarer des mégots de cigarettes. Bon, c'est pas une urgence.
Au pire, tu ramasses, tu vois.
C'est pas une urgence.
Mais non, bien sûr. Je me posais une question. Une fin de carrière des boueurs? Quand on commence à être un peu vieux, qu'on a des problèmes de dos, des choses comme ça, c'est un métier qui est très physique.
Oui, c'est très physique. Donc, quand on est derrière le camion, comme je disais tout à l'heure, on a des bacs de 600 litres, mais pas que, parce qu'on fait aussi des encombrants. Donc, il faut les porter, les canapés, les frigos, les ballons d'eau chaude, etc., etc., les radiateurs, tout ça. Donc, le dos en prend un coup, mais pas que. Il y a toutes les articulations. Donc là, il y a les poignets, les coudes, les genoux, les chevilles. Là, par exemple, le fait de pincer les déchets tous les jours, bon, je varie, mais il faut varier ses gestes, c'est hyper important, balayer, pincer, parce que là, maintenant, j'ai les fourmis sur les trois premiers doigts, la main droite, donc je me réveille en pleine nuit, je suis comme ça, les doigts paralysés, mais je me plains pas, attention, hein, au contraire, mais voilà, il faut que je varie mes gestes, c'est hyper important, et donc la fin de carrière, alors, peut-être que je suis pas le bon exemple, parce que moi, je partirai à 68 ans. Je sais pas comment je vais faire, mais ça va être très compliqué.
Parce que tu as eu une
carrière hachée.
Voilà, t'as pas travaillé tout le temps dans les conditions. Tu nous disais que t'as bossé aux États-Unis et tout, donc j'imagine.
Exactement.
D'accord. Donc 68 ans.
Ouais. Donc moi, ça va être 68 ans. Moi, sinon, c'est 62, 64 maintenant.
D'accord. Oui, donc quand même, c'est quand même pas jeune.
Non, et. Alors après, je ne sais pas comment on va faire en fait. J'imagine même pas.
Les chefs, c'est des anciens éboueurs ou est-ce que c'est un autre. Donc ça, c'est une piste éventuellement, diriger un secteur, que ce soit alors, toi demain qui dise toi tu vas là. Quoi.
Ils incitent les gens à devenir chef d'équipe, donc TSO. Et oui, c'est bien, moi je le ferai pas, parce que commander les gens, moi ça m'intéresse pas du tout. Je peux commander juste mon balai, c'est tout.
Ça te suffit.
Donner des ordres, je suis incapable. Il faut savoir le faire, hein, parce que c'est quand même... Il y a tous les caractères, en fait, chez les éboueurs. Et pour le coup, je sais pas si je serais capable de supporter tous ces caractères-là confondus pour de sacrées épaules, et moi, je les ai pas.
Ouais. On parlait un petit peu de la place de la femme tout à l'heure. Oui. Je pense que c'est le bon moment de revenir dessus.
Oui.
Tu nous parlais des femmes reapers.
Ouais, les chauffeurs
on
aussi.
On n'en voit pas beaucoup, faut le reconnaître.
De plus en plus maintenant, comme je disais, je leur tire mon chapeau, et si elles peuvent venir chez nous, franchement, c'est top. Bon, nous, notre atelier ne s'y apprête pas. Pourquoi ? Parce que y a pas la place, en fait. Il est conditionné. Il y a juste une pièce pour les douches, il y a une pièce pour les vestiaires. Et si on a des femmes qui viennent chez nous, il faut encore d'autres douches, il faut d'autres vestiaires.
Donc, il n'y a pas de vestiaire pour les femmes dans votre
chez
atelier ?
Chez nous, non.
Donc, ça montre quand même que le métier n'est pas encore très accessible.
Dans notre atelier, non. Mais maintenant, il devient justement... Ils construisent des ateliers en fonction, justement, de cette mixité.
D'accord.
Et c'est hyper important.
Mais c'est encore nouveau ?
Non, pas vraiment. Parce que, en fait, il y a de plus en plus de femmes maintenant qui postulent.
T'as un chiffre à peu près ? Combien de pourcentage
non,
de femmes
non, franchement, je peux pas en donner. J'aimerais bien, mais...
Au doigt mouillé, c'est...
Allez, sans déconner, on est 7000 éboueurs à Paris, à peu près 3000 sur le terrain, on va dire 500, 600 femmes, ouais, c'est pas mal,
okay. Mais
c'est pas mal, ça mériterait qu'il y ait beaucoup plus.
À peu près 20% de femmes sur le terrain.
Il faut qu'il y ait beaucoup plus.
D'accord.
Et il y a de plus en plus de chauffeurs en femmes.
Elles sont bien accueillies ?
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais, si.
Il y a une bonne ambiance de ce côté-là.
Oui.
Est-ce que tu as une anecdote sur ton métier ? Quelque chose qui t'a marqué, que tu aurais envie de nous partager ?
Alors, une anecdote, quand j'étais reaper, ça c'était la deuxième année, on passait toujours dans la même rue, et tu avais le papa et son fils qui étaient à la fenêtre, qui nous faisaient coucou à chaque fois. Et un jour, on se retourne, hop, on voit personne à la fenêtre, ben, bizarre. Et en fait, ils ouvrent la porte, ils arrivaient pour nous aider et pour mettre son petit sac aussi dans le camion poubelle. Et là, le petit voulait monter sur le marche-pied. Et voilà, donc...
Vous l'avez fait monter ?
Ben oui, ouais. Bien évidemment, on peut pas refuser.
Il y a souvent des bonnes histoires de relations. Les enfants aiment bien les éboueurs, aiment bien le gros camion, qui est quelque chose qui est très impressionnant.
Exactement.
Avec le broyeur derrière et... C'est quand même un objet technologique intéressant. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre question. Est-ce que la technologie aujourd'hui est quelque chose qui a sa place dans votre métier et peut amener votre métier à devenir plus simple pour vous, j'espère ?
Moi, je ne suis pas pour tout ça.
Est-ce qu'il y a de l'IA dans, dans la propriété de Paris ?
Non,
pour remplacer le chef ?
tout devient électrique, pratiquement.
Ouais.
Et donc, ils sont en train de changer leur parc automobile.
Donc, les camions deviennent électriques ?
Et à gaz.
OK.
Et à gaz. Et il y a les gloutons. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est le
glouton. Absolument pas.
Le glouton, c'est un gros aspirateur de rue. Et on s'en sert souvent sur Jardin Nelson Mandela.
D'accord.
Parce qu'il y a beaucoup de feuilles. Et nous, on s'en sert. On doit s'en servir tous les jours.
Et alors, c'est quoi ? C'est un aspirateur que vous avez sur le dos
C'est comme un escargot, en fait. Tu as la carapace.
Okay.
Et l'escargot, c'est l'éboueur. Et voilà. C'est une manette. Et il y a une tige avec une manette, on appuie, ça avance, en fait, et on aspire.
Et vous aspirez. Et ça
c'est
part
très
dans
pratique
le...
pour les mégots.
Ça part dans le dos ?
Voilà, ça part dans une grosse poubelle derrière.
Ok. Que vous portez sur le dos ?
Non, c'est à roulette.
Ok, donc vous avez le moteur sur le dos.
Non.
C'est la métaphore de l'escargot, il faut que je me resitue là.
Ouais, alors. En fait, il y a des roues.
Ok.
C'est des roues, c'est électrique, donc on appuie sur une manette et hop, ça avance tout seul.
Et ça aspire tout.
Voilà, ça aspire, surtout pour les mégots, c'est très pratique.
D'accord.
Voilà.
Donc ça, c'est un objet un peu nouveau ?
Non, ça fait 5 ou 6 ans maintenant qu'il y a ça.
Ouais, d'accord, mais c'est quand même relativement...
Oui.
Et il y a régulièrement des nouveaux dispositifs comme ça ?
Non. Ils ont peut-être changé les pinces, mais les pinces maintenant, avec du silicone, en fait, quand on appuie, ça prend la forme de notre main.
Ok. Donc, pour minimiser l'impact que ça a sur vos articulations...
J'ai eu ça pour mon pari... Enfin, je sais pas si on en parlera, mais mon Paris-Marseille. Quand j'ai fait Paris-Marseille, ils m'ont filé les pinces, justement, parce que j'ai fait Paris-Marseille à pied pendant...
Ah, mais parlons de ton Paris-Marseille à pied.
Sur 800 km.
Pour nettoyer...
Pour nettoyer la N7, en partie, un côté de la N7, avec mon roussac.
Putain.
55 jours, ouais.
C'est une sorte de bizuitage...
On a ramassé 15 tonnes.
Est-ce qu'il y a des traditions chez les éboueurs ?
Des traditions.
Ouais, des petits bizuitages, des petites...
Alors moi, la tradition, c'est que j'arrive très souvent avec des gâteaux, parce que je fais des gâteaux pendant mes repos. Là, je vais en faire juste après vous, pour lundi.
C'est dommage que tu les aies pas fait avant. Enfin bon, bref, je dis ça.
Je fais des madeleines souvent.
Ok.
Au chocobon, c'est super bon. Et là, je vais faire des gâteaux à l'ananas. Donc ça, c'est moi qui... C'est, depuis que je suis à la ville de Paris, c'est ce que je fais pour mes collègues. Ensuite, il n'y a pas vraiment de...
Il n'y a pas vraiment quand quelqu'un part à la retraite ou il n'y a pas un bisuitage au début ou un moment fort dans les carrières.
On fait des repas de temps en temps, mais voilà, sans plus.
Il n'y a pas de superstition, de choses comme ça.
Non, non.
Ok, écoute, super intéressant. J'ai un dernier point à évoquer avec toi qui est très particulier, mais aujourd'hui, tu es influenceur. Et ça, c'est assez impressionnant. Tu as amené sur TikTok, qui est donc une plateforme qui a amené comme ça des métiers un peu méconnus à s'exprimer. Toi, tu t'es livré sur TikTok, tu as créé un compte et tu parles de ton métier. Tu parles de son côté technique, mais tu parles aussi de l'impact psychologique que ça peut avoir sur toi. Beaucoup d'entre nous t'ont découvert dans une vidéo comme ça où tu es en interview et où pendant cette interview, il y a un événement, je crois qu'il y a quelqu'un qui insulte ou quelque chose comme ça.
J'ai une bouteille.
C'est très touchant. Et je crois que ça a peut-être été aussi le jour où vraiment t'as percé là-dedans, où t'as gagné beaucoup de... et où t'as touché tout le monde. En tout cas, on est beaucoup à t'avoir découvert à ce moment-là. Comment ça s'inscrit aujourd'hui, ça, dans ta vie, dans ta carrière, par rapport à la mairie de Paris, par rapport à tout ça? Ça a dû être un petit choc pour plein de gens, que tu te retrouves connu dans un métier qui est plutôt un métier discret, de manière générale. Alors, on n'avait jamais eu un éboueur star.
Moi, je suis impacté, en fait, tous les jours. Tous les jours, je chiale au fond de moi, je le montre pas, mais pourquoi? Parce que j'en ai marre de voir tous ces gens qui jettent partout, qui respectent pas l'environnement. J'en ai ras-le-bol, parce qu'on n'a rien demandé. La Terre, elle a rien demandé, on lui fait du mal, on a rien d'autre, et on la salit, comment on peut la salir comme ça? Enfin bon. Et j'ai voulu me lancer sur les réseaux pour changer ça, justement, pour changer ces mentalités-là. Au lieu de jeter par terre, tu jettes à la poubelle. Jeter par terre, ça laisse des traces. Mais ça laisse des traces en soi aussi, sincèrement. Et je veux que ça change. Je veux me servir de ma petite existence pour avoir une planète propre. Alors déjà, j'ai à peu près sur les réseaux sociaux, bientôt 300, on va arriver aux 400 000 abonnés. Donc en partie TikTok, 298 000, après Instagram, après Twitter, après tout ça. Je viens de me lancer sur d'autres réseaux.
D'accord.
Mais mon seul but, c'est que les choses, elles changent. Je vais aussi dans les collèges, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais dans les collèges pour sensibiliser les 5e et les 4e. Ils doivent deviner mon métier. Je souille la salle et je fais exprès pour voir leur réaction. Et pendant 2 heures, on parle du métier des boueurs, de l'impact du déchet, de notre planète, tout ça. Donc je me donne tous les moyens, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit à travers les médias, que ce soit aussi à travers... la comédie, parce que j'ai par exemple tourné une petite série qui va passer l'année prochaine, je crois qu'elle va passer vers fin novembre. C'est une histoire d'un gobelet qui s'appelle Gobi. Moi, je suis le Reaper, voilà.
C'est toi qui as écrit?
Non, non, pas du tout, on est venu me voir, okay. On m'a appelé, est-ce que tu veux faire le Reaper? Voilà, je dis oui, pas de problème. Et je fais ça gratuitement.
Et je voudrais pas, mais...
Ouais, et du coup, voilà, tous les moyens sont bons pour pouvoir sensibiliser à la propreté.
Comment la mairie de Paris a accueilli ça?
Parce que
tu fais un travail incroyable pour eux gratuitement.
Oui,
enfin, en vrai. C'est hyper valorisant à tous les niveaux.
Alors j'ai tous les élus qui sont pratiquement abonnés sur moi à Twitter. Mais après moi je ne suis pas dans la politique et je parle à Madame Hidalgo, à Anne, comme si c'était une amie. Ce qui est vrai.
Est-ce que ça a été bien accueilli par des supérieurs, par la hiérarchie en général? Est-ce qu'aujourd'hui, ils te donnent du temps pour ça? Est-ce qu'ils l'encouragent? Est-ce que c'est une curiosité? Est-ce que tu as des petites anecdotes autour de cette question-là où d'un coup, il y a quand même quelque chose de nouveau qui est arrivé?
En fait, ils ont été débordés parce qu'ils m'ont mis, deux personnes. Au début, ils m'ont mis deux personnes. Ils m'ont mis une attachée de presse.
La mairie de Paris?
Oui.
Ah cool, ok.
Au début. Hein.
Okay.
Et plus le directeur de la communication de la ville de Paris, de la DPE, c'était eux qui géraient mes rendez-vous. Enfin, il fallait que je passe par eux pour gérer tous mes rendez-vous médiatiques sur le terrain. Je dis bien,
okay.
Sur le terrain.
Toi, tu n'as pas demandé l'autorisation pour lancer ça?
T'as fait
ta vie et ça a pris et d'un coup, ils t'ont dit « Ah, Ludovic,
exactement.
On a vu, ok. Voilà, »
ouais. Exactement. Et c'est Combini qui m'a repéré les premiers et c'est Combini qui a tout lancé, en fait. Après, voilà, il y a Madame Hidalgo qui m'a invité et donc, bien évidemment, elle m'a remercié, etc. Mais je dis, vous savez, Madame Hidalgo, c'est pas, il n'y a pas que moi. Hein. Moi, je le montre sur les réseaux, ok, Mais c'est tous les, c'est tous les éboueurs hein. qu'il faut aller voir et remercier. Et pareil pour le maire adjoint à la propreté, qui était Madame Colombe-Roussel, qui maintenant est passée sénatrice. Mais maintenant, c'est Monsieur Alain Guillou. Pareil, il m'a remercié. Là, par exemple, j'ai rendez-vous mardi dans ma division centre, parce que Paris est divisé en divisions par arrondissement. Et là, ils veulent me féliciter, donc je suis invité mardi. Voilà, mais ils le prennent bien. Mais attention, le jour où je vais cracher sur la ville de Paris, ce sera différent.
Oui, normal.
Là, tout se passe bien,
ça reste un employeur,
tout est beau, tout est bisounours. Mais le jour où je déciderai de parler de choses qui n'auront pas dans leur sens, ça risque d'être chaud cacahuète pour moi. Voilà. Mais j'ai aucune raison de faire ça, de toute façon.
Les gens te reconnaissent dans la rue quand tu travailles, oui. Maintenant, tu fais des photos.
Samedi, c'est infernal, je suis content de ne pas travailler aujourd'hui.
Ah ouais. ça peut nuire un peu à ton boulot.
Non, c'est pas infernal, parce que
c'est quand même agréable.
C'est toujours bien, bien sûr. Mais c'est vrai que je passe du temps à faire les photos et moins avec mon balai.
Bah, si ton travail permet aux gens de moins mettre des papiers par terre, finalement, ça peut s'équilibrer. Moins de papiers à ramasser, plus de temps pour les photos.
Quand ils me voient, justement, ils viennent jeter à la poubelle.
Bah, c'est bien, regarde.
Dans mon sac,
regarde, je suis pas un gros dégueulasse.
Ils pensent okay. Poubelle quand ils me voient, donc c'est
bon,
bien.
Bah écoute, super. Super.
Je veux que je te parle de l'info que j'ai ou pas?
Oui, alors, il y a un scoop?
Bah, un petit scoop.
Ouais. On prend le scoop.
C'est parce que j'ai eu un appel de Madame Valérie Pécresse.
Ah.
D'ailleurs. J'étais en train de travailler. Elle me dit, Ludovic, je sais plus si je te tutoie ou pas. Mais tu sais qu'on t'a sélectionné pour porter la flamme olympique.
Mais non.
J'ai dit quoi?
Ça tue.
Incroyable. J'y ai pas cru. Je dis, pouvais répéter. D'ici, si, Ludo, on t'a sélectionné pour la flamme. Donc, vous serez les 20 derniers en Île-de-France.
Donc, tu vas porter la flamme olympique.
Oui.
Et c'est un scoop.
Ouais.
Bah, ça régale, félicitations.
Ouais, non,
est-ce que tu vas le porter en tenue?
J'en sais rien. J'ai aucune info. La liste, elle va sortir officiellement au mois de janvier. J'en parle, moi, je m'en fous. oui, on sera 11 000 personnes,
okay.
Donc quand même. Et ça va être incroyable comme expérience.
Bah, trop bien,
et,
bah, on te regardera.
En fait, je pense que s'ils m'ont pris, s'ils m'ont sélectionné, c'est pour l'image que je peux représenter au niveau de la propreté en général par rapport au Paris-Marseille. Parce que j'ai aussi, là, je suis en train de préparer le Tour de France, 4 000 km, 319 jours de marche pour ramasser les déchets tout autour de la France. Donc c'est juste incroyable aussi comme expérience, un an de périple.
Tu vas live et tout ça, j'imagine,
oui, bien sûr.
Du contenu autour
ah,
de
oui,
ça.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Ok. Donc tu pars sur les routes, à pied pour nettoyer des routes et nettoyer des longues distances. Tu dois arriver de ville en ville, tu t'arrêtes dans chacune des villes. Est-ce que tu rencontres les équipes de chacune de ces villes? Comment ça se passe de ce côté-là?
Alors oui, je rencontre les professionnels et ça c'est juste incroyable parce qu'ils me soutiennent à 3000%. Ils me disent surtout continue. Alors attention, je ne suis pas le représentant, le porte-parole des éboueurs. Pas du tout, jamais de la vie, parce qu'il faut savoir que comme dans tous les métiers, il y a aussi des fainéants chez nous. Hein. Je ne représente pas ceux qui ont un poil dans la main, je suis désolé. Mais par contre, il y en a beaucoup qui me suivent sur les réseaux, justement je leur ai donné aussi l'exemple, parce qu'eux maintenant font des vidéos pour montrer, ils font des avant-après. J'ai un Algérien par exemple à Alger, avec qui je suis en contact, qui grâce à mes vidéos fait des vidéos maintenant, et me montre avec son roule-sac, il fait les feuilles et tout, c'est incroyable.
Est-ce que toi, tu t'étais inspiré de quelqu'un?
Pas du tout.
Non.
Juste donc... au niveau vestimentaire, je me suis... Ah oui, on m'appelle le Coluche de la propreté. Donc, je me suis... vestimentairement parlant, je me suis inspiré de Coluche, bien évidemment.
Donc là, les auditeurs ne te voient pas, mais en effet, t'as un sacré look, t'es entièrement rouge avec une salopette rouge, une polaire rouge et des gazelles rouges aux pieds, les mêmes que moi. et un bob rouge et noir Marvel. Donc ouais, il y a du gros look. Donc le Coluche de la propreté. Écoute Ludovic, franchement, c'était trop trop bien de discuter avec toi.
Merci.
J'ai adoré te rencontrer et j'ai adoré parler de ce métier. Je pense qu'il y a plein de vocations à créer et notamment aussi cette générosité que tu as à créer du contenu autour de ce que tu fais pour donner envie aux gens d'en savoir plus et aussi d'arrêter de jeter leur merde par terre quoi.
On n'est pas éternel, il faut
donc,
le savoir.
Ça, on arrête de jeter des trucs en fait. Bon, un immense merci à Ludovic d'avoir partagé avec nous son expérience. Et vous, chers auditeurs, si vous avez des questions sur les formations, les métiers ou l'orientation, n'hésitez pas à écrire à Benoît, notre spécialiste des métiers et des formations sur c'estpasunmétier.fr. C'est pas un métier, c'est un podcast. Evil Prod, production Benoît Lachan, réalisation Benjamin Septem-Ours, direction de production Paloma Sterzati. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et arrêtez de jeter vos papiers par terre. Merci pour votre écoute et merci pour votre fidélité. Allez, ciao!